Europe 1, en balade avec Catherine Pancol, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec la romancière la plus populaire de France que nous partons en balade aujourd'hui. Catherine Pancol publie son 19e roman, Bed Bug. Les 18 précédents se sont vendus à des millions d'exemplaires et ont été traduits dans plus de 30 pays. Elle nous a donné rendez-vous chez elle, à Neuilly-sur-Seine. On s'y retrouve dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Catherine Pancol sur Europe 1.
Bonjour Catherine Pancol.
Bonjour Frédéric Taddeï.
C'est drôle, vous êtes la première personne que je rencontre qui a son poste de radio dans l'entrée. Normalement, on l'a dans la cuisine, dans la salle de bain,
mais
dans le salon
partout,
éventuellement,
mais ça,
dans la chambre.
C'est celui du chien.
Ah, c'est celui du chien, le chien qui est juste devant moi d'ailleurs, ouais. Qui me regarde avec un air obstiné.
Parce que quand je pars, je lui mets la musique à lui spécialement.
Ah oui, c'est ça. Et vous lui mettez quoi comme station?
Je lui mets Radio Classique. C'est une musique classique. Il aime bien. C'est un chien qui a été élevé avec du Mozart.
C'est vrai?
Ouais. C'est un chien qui a été élevé chez des gens qui adorent cette race de chien.
Ah oui? Et pourquoi il me regarde d'un air aussi?
Parce qu'il veut jouer.
C'est ça, il avait sa balle.
Ouais.
Et vous lui renvoyez la balle comme ça toute la journée?
Oui, c'est souvent.
Mais comment vous faites pour écrire des livres?
Ah non, mais à un moment, il s'arrête. Quand je l'écris, il s'arrête.
Ah oui, vraiment? Il n'a pas l'air de vouloir arrêter, là.
Mais non, parce que là, il a senti que là, en ce moment, je n'écrivais pas. Donc, il en profite.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Boy.
Ah oui.
Parce que c'est un garçon.
Oui, c'est le héros d'un roman de James Baldwin. C'est pas ça qui vous a inspiré?
Non, c'est parce que, bon, c'est un garçon.
Ah bon? D'accord.
Je trouvais pas de nom. J'ai l'impression que je vais visiter mon appartement à un agent immobilier.
Pas du tout.
Alors voilà, c'est la salle à manger.
Rien n'est à vendre, de toute façon. Non, c'est un appartement classique.
Ouais, tout à fait.
Vous écrivez où, vous?
J'écris dans mon bureau. Ça, c'est salle à manger.
Ouais. Oui, je l'ai deviné.
Ça, c'est reste de fleurs d'anniversaire.
Ah oui, quand même, il y en a plein partout.
Ça, c'est salon.
Ouais. Voilà. Avec beaucoup de fleurs de l'anniversaire
avec,
aussi.
Beaucoup de fleurs d'anniversaire.
Ça, et des cactus, vous aimez les cactus?
J'adore les cactus.
Ouais, moi aussi.
Et vous savez que ça absorbe toutes les mauvaises vibrations d'ordinateur, de portable et tout.
Ah ouais.
D'ailleurs, j'en ai qui meurent régulièrement. C'est pour ça que j'en ai beaucoup. Ouais. J'en avais acheté un géant qui, normalement, devait résister et est mort au bout
d'un an. Vous avez aussi plein d'exemplaires de la Pléiade.
Oui, parce que j'aime beaucoup aussi.
Vous lisez les livres dans la Pléiade?
Alors, en fait, je les rachète en poche et je les mets dans ma poche.
Parce que c'est difficile.
Oui, mais je trouve ça assez joli. Ouais. C'est une présence.
Ah oui?
Ouais.
Vous souffrez de solitude? Vous entourez de livres de la Pléiade?
Non, mais je trouve ça plutôt beau. C'est comme un tableau, c'est comme, comme un cactus.
Oui,
c'est des choses qu'on aime.
Je trouve les cactus beaucoup plus beaux.
Ouais.
Il y a encore des. Effectivement, il y a des. C'est un poste de radio, là encore.
Non, ça, c'est la chaîne Sonos. Vous savez, la chaîne Sonos?
Non, je ne sais pas.
Vous ne connaissez pas la chaîne Sonos? Alors, c'est un système. Il joue la même musique dans toutes les... Ou on peut changer de musique aussi dans toutes les pièces de la maison.
Ah oui, je connais le système, mais je ne savais pas que ça avait ce nom-là.
Vous commencez un petit prélude, vous marchez dans votre appartement et vous arrivez... parce que l'appartement est très grand à la fin du prélude. Ouais. Mais voilà, donc ça fait un son réparti dans toute la maison. Sonos.
Ouais, je comprends. Quand vous écrivez, vous écoutez de la musique?
Alors quand j'écris, je mets un fond de musique que je n'écoute pas. Parce que sinon, on se sent très, très seul. Quand j'ai une baisse d'inspiration, je peux m'appuyer sur la musique.
Vous écrivez de quelle heure à quelle heure, normalement?
2h à 7h.
Ah oui.
Ouais.
Et si vous n'avez pas fini, enfin, si vous n'avez plus rien à écrire, vous restez quand même assise à votre table.
Ouais.
Et vous faites quoi?
Je fais rien. Je me lamente.
C'est vrai. Ça vous arrive souvent?
Ça m'arrive comme à tout le monde, je pense.
Tout le monde n'écrit pas, surtout des gros livres comme vous.
Tous les gens qui écrivent, il y a des moments on est en bas de la falaise, on se dit j'y arriverai jamais, pourquoi j'écris?
Il paraît qu'il ne faut pas y penser entre le moment où on se lève de la chaise et le moment où on y revient le lendemain, c'est vrai?
Alors moi maintenant je fais le truc d'Hemingway.
Ouais.
Hemingway dans le Eden, Eden quelque chose, Eden dans le titre, il raconte que quand on est coincé dans la page blanche, qui est quand même très 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 angoissant, il faut écrire n'importe quoi. Mais n'importe quoi, c'est-à-dire que vous reprenez votre dernier paragraphe, et vous êtes coincé, donc vous écrivez, je me demande si j'ai fait les courses ce matin, j'ai pourtant dû remplir le frigidaire, alors qu'est-ce que j'ai oublié d'acheter, et vous écrivez tout ça. Et après vous relisez, donc vous avez quand même écrit quelque chose, vous relisez et vous dites, mais c'est nul, hein, ça n'intéresse pas du tout. Et du coup, votre tête qui a entendu c'est nul, ça intéresse, il y a un truc qui se passe et vous n'avez plus peur d'écrire en tous les cas. Donc vous retombez dans l'action et vous vous remettez à écrire.
J'ai l'impression d'avoir lu pas mal de livres qui s'inspiraient de des
minuets. Où les gens n'effaçaient pas.
Oui, c'est ça.
Oui, mais bon. Ça, moi, ça marche maintenant.
Oui.
Non, parce qu'on peut rester bloqué 2-3 jours, 4 jours. Ouais. Ouais. Ça, c'est... c'est horrible.
Frédéric Taddeï se balade avec Catherine Pancol sur Europe 1.
Votre premier livre, moi d'abord, c'était vendu à 300 000 exemplaires. Vous aviez 25 ans à l'époque. Ça a dû vous faire drôle, non?
Ça fait très drôle. Ah non, ça a été terrible. J'ose pas dire ça parce que c'est... Mais c'est vrai que c'est horrible.
Ouais. Enfin non, c'est plaisant.
C'est très violent, vous savez quoi? C'est vraiment violent. Parce que tout d'un coup, vous devenez... moi, j'étais tranquille. J'étais très tranquille, j'avais une vie que j'aimais beaucoup, très tranquille. Et tout d'un coup, vous êtes projeté sur le devant de la scène quand même. Il y avait un côté petit animal curieux qui sait, j'avais des chèques arabes qui venaient me voir. J'ai l'impression que j'étais devenue une attraction.
Ils venaient vous voir pourquoi?
Je sais pas, ils m'envoyaient des avions que j'allais faire mon shopping à Londres.
Ah, c'était juste après la crise du pétrole, donc c'est peut-être pour ça qu'ils étaient sous
la... Non, je crois qu'ils font ça encore maintenant.
Ils venaient de multiplier le prix du baril, ils avaient les moyens.
Non, il y avait un côté... j'ai pas bien vécu. En fait, c'est pour ça que je suis partie à New York.
Oui, c'est ça.
J'ai pris la fuite, en fait.
Et vous y êtes restée longtemps, en plus.
Ils ont...
C'est ça.
Oui, parce que je voulais partir. Vous savez, mon grand rêve, c'est d'aller en Argentine. Dans ma vie, je ne suis pas encore allée en Argentine.
Ah oui, pourquoi?
Je suis allée partout, sauf en Argentine.
Pourquoi
je ne sais pas, il y a une espèce de... Je sais pas, de sort. Dès que j'approche de l'Argentine, à la fin, il faut que je rentre à Paris. Je vais rentrer en Argentine, on me fait rentrer à Paris.
Et pourquoi vous rêvez de l'Argentine?
Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais mon rêve, c'était d'aller en Argentine. Et je m'étais dit, je commence par New York et après je vais descendre. Et bien, je ne suis jamais allée en Argentine.
Ouais,
je suis allée au Brésil, je suis allée au Chili, je suis allée en Colombie, je suis allée au Pérou, je suis allée en Bolivie.
Au Costa Rica?
Non, je ne suis pas allée au Costa Rica. Ah. Oui, je sais. Personne n'est parfait. Hein.
Oui, évidemment. Bon, on continue de visiter l'appartement de Catherine Pancol. On se retrouve dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Catherine Pancol sur Europe 1.
Nous sommes chez Catherine Pancol, à Neuilly-sur-Seine. On est en train de visiter son appartement, un appartement dont le plancher grince.
Hein. C'est un vieil appartement. Hein.
Enfin, il a l'air bien retapé.
Ah ben oui, j'ai tout repeint.
Ouais. Là, c'est le petit salon.
Ça, c'est le salon, c'est pour bouquiner.
Ouais.
Chambre d'amis aussi.
Ah oui, faut
le canapé fait lit. Ah ben non, mais c'est un canapé en trompe-l'œil. Vous voyez, il est très très large, regardez.
Ouais. Toujours des cactus.
Oui, des cactus et des livres.
Oui, des livres, il y en a beaucoup.
Ouais.
Vous lisez Rilke, Jules Renard, c'est classé par ordre alphabétique.
Ouais, ouais. Ça, je
Proust, bien sûr, Arthur Rimbaud.
Ouais.
L'envie d'Helmut Schobeck.
Ouais. Je n'ai pas tout lu, je
suis pas sûre. Personne n'a jamais tout lu dans sa bibliothèque, vous avez remarqué. À chaque fois, on se dit qu'il faudrait que j'aille en prison quelques mois ou quelques années pour pouvoir tout lire. Vous avez même les François Truffaut en DVD.
Ouais, et puis il y a là.
Il y a beaucoup moins de DVD que de romans.
Bah oui, parce que maintenant, on ne les regarde plus en DVD, les films.
Vous les regardez comment?
On les regarde... Cinéthèque. Vous connaissez Cinéthèque? C'est bien, ça.
C'est la cinémathèque des réalisateurs.
Bah alors, il y a tous les films, là.
C'est eux qui recommandent des films à voir et on les voit en ligne.
Voilà, c'est très bien.
Je croyais que vous alliez me dire, c'est parce que vous étiez passé aux séries, comme la plupart des gens, et que vous regardiez plus.
Ah, mais je fais les deux, j'ai toujours fait les deux. Ouais.
Vous n'êtes pas allé à l'école, il paraît que c'est votre mère qui vous a appris à lire et à écrire.
Ouais.
Elle vous a bien appris, vous en êtes bien tiré depuis avec l'écriture.
Très, très bien. Mais ma mère était institutrice, vous savez.
Ah, c'est vrai.
Ouais.
Ah oui, ça compte pas alors. Je croyais que vous étiez d'enfant de la balle, moi.
Ah non, t'es institutrice très très sérieuse, très à cheval sur l'orthographe, la grammaire, les lectures obligatoires. Donc j'ai énormément lu, toute petite, je suis tombée dedans quoi.
Et vous avez eu le bac jeune?
Contre la télévision. Ouais. Oui, j'ai eu le bac très jeune, elle était instite, donc il fallait bien travailler.
C'est ça.
Quand j'étais pas dans les trois premières de la classe.
Et vous avez un doctorat de lettres modernes.
Ouais. Enfin non, j'ai les deux premières années parce que mon prof est mort.
Ah mince.
Ouais. Et personne n'a voulu reprendre le sujet de ma thèse.
Pourquoi? C'était sur quoi?
C'était sur Charles Dubos et la critique au XIXe siècle.
Ah oui, comme quoi ça mène à tout après.
Comme quoi ça mène à tout.
C'est la dernière fois que vous avez lu un critique, non?
Oui, c'est sûr que je ne m'entraîne pas à les lire.
Ah, ils n'ont pas de gens gentils avec
nous. Délicieux.
Mais ça vous a servi, sinon, d'avoir fait Lettres modernes?
Ah, bah oui, quand même.
Donc, je ne sais pas, ça a de l'intérêt pour devenir romancière?
Ah, mais je ne voulais pas du tout être romancière à l'époque, je voulais être voyageuse.
Ouais.
Mais je faisais ça parce qu'il fallait faire quelque chose. Mmh. Je me suis dit, je pourrais toujours être prof, passer le CAPES, le machin.
Vous êtes devenue prof, d'ailleurs.
Ouais, j'étais prof. Enfin, j'étais prof en Suisse, il ne fallait pas de diplôme. Hein. J'avais ma licence à aller en Suisse.
Mais pareil, vous étiez prof de latin, vous parlez latin.
Ah, j'adore le latin, moi.
C'est vrai?
Ouais. J'adore l'étymologie des mots, j'adore tout ça. Ah, j'adorais le latin. C'était, pour moi, le latin, c'était comme faire un sudoku. Oui.
Oui.
Ouais, j'adorais ça.
Et vous parlez latin encore aujourd'hui?
Eh ben, quand j'étais petite, on nous apprenait à parler latin, vous rendez compte? J'étais chez les bonnes sœurs. Et on parlait latin. En 6e, 5e, on parlait latin. Mais c'est une langue latine. On prononce toutes les... Vous voyez, toutes les...
Vous avez fait un atelier d'écriture créative aussi.
À Columbia.
À la Columbia University. Mmh. Et ça vous a servi?
Mais non, en fait, parce que j'ai eu la chance de... En fait, je suis devenue journaliste totalement par hasard. Vraiment par hasard. Et donc, j'ai commencé à Paris Match, par hasard. Je me suis retrouvée à Cosmopolitan parce qu'il y avait une femme formidable qui s'appelle, parce qu'elle est toujours
Juliette Boirivaud,
une grande journaliste. Vous l'avez connue aussi?
Oui, bien sûr.
Et qui était d'une grande générosité. Et quand elle a vu que j'étais aussi branchée sur les bouquins, l'écriture et tout ça, elle s'est dit, celle-là, je vais la former. Et elle m'a vraiment appris à écrire. Et elle apprenait l'écriture déjà à l'anglo-saxonne. Vous voyez, l'écriture, c'est très différent, l'écriture anglo-saxonne, de l'écriture française.
D'ailleurs, les anglo-saxons pensent qu'on peut apprendre l'écriture dans des ateliers d'écriture, alors que les Français pensent que c'est un talent.
Voilà. Oui, mais il y a quand même... Par exemple, Simenon, c'est un écrivain américain, c'est pas un écrivain français. Et il y a des écrivains... Ils ont une manière d'écrire, c'est leur grand truc, c'est ne dites pas, montrez. Les Français commentent énormément. Les anglo-saxons ne commentent pas, ils montrent tout. Vous voyez.
Mais Juliette Boirivaud, elle dirigeait Cosmopolitan, la version française. Mm-hmm. C'est une école d'écriture très particulière. On écrit des articles du genre comment quitter un homme sans qu'il s'en aperçoive.
Voilà, 15 feuillets.
Voilà, comment se venger.
15 feuillets. C'est toujours 15 feuillets. Je vis avec un radin. 15 feuillets. Pourquoi ne rappelle-t-il pas 15 feuillets? J'aime pas ma belle-mère. 15 feuillets. C'est un très bon exercice, vous savez.
Ça vous prépare
à écrire des romans et à écrire, surtout à écrire. Parce qu'il faut que les gens, ils lâchent pas la lecture.
Frédéric Taddeï se balade avec Catherine Pancol sur Europe 1.
Il paraît que c'est en lisant vos articles, d'ailleurs, que Robert Laffont vous avait appelé à l'époque pour vous dire « écrivez-moi un roman ». Et c'était une bonne idée, sauf que vous n'avez même pas écrit le roman chez Robert Laffont après. Vous avez signé chez un autre parce qu'il proposait plus d'argent?
Non, pas du tout. Parce que quand il m'a dit de signer un contrat, ça m'a fait peur.
Ah oui?
Moi, je me suis dit, si je signe un contrat, je suis obligée d'écrire un livre.
Oui, mais une fois que vous aviez écrit le livre, vous auriez pu aller retourner chez lui.
Non, parce qu'entre-temps, j'avais rencontré Romain Gary.
Ah. C'est à lui que vous avez dédié le premier roman?
Ouais.
Mais vous n'aviez pas mis son nom?
Non.
Vous avez mis un voisin?
Un monsieur qui habite rue du Bac.
Voilà, c'est ça, c'était votre voisin.
Ouais.
Coup de bol quand même.
Ouais.
Et il avait aimé le roman?
Romain, il m'avait dit que c'est tout à fait valable. J'avais été un peu vexée. Je trouvais que le truc able, ça ne m'allait pas.
Ah oui?
Et lui, il m'avait dit il faut que tu ailles chez Grasset ou au Seuil. Ou... Il voulait quitter Gallimard, lui, à l'époque. Oui. Et donc, il voulait emmener des jeunes auteurs. Et puis là-dessus, j'ai un copain qui m'a dit tu devrais aller au Seuil. Donc j'ai fait deux copies. Romain m'avait fait une lettre de recommandation pour Grasset et mon copain pour Le Seuil. Donc j'ai déposé mon manuscrit. À l'époque, il y avait un grand panier au Seuil et chez Grasset. Et au Seuil, ils m'ont appelé le soir même.
Mais je crois que vous avez un don pour les titres. Moi d'abord, c'était vraiment
c'est pas moi qui l'ai trouvé, celui-là.
Oui, ça fait rien, ils sont bien.
Ouais.
J'étais là avant.
Ouais, ça j'ai trouvé sur une cabine téléphonique. Ça devait être quelqu'un qui s'énervait.
Scarlett, si possible.
Ça, c'est moi.
Très bon. Les yeux jaunes des crocodiles.
Ça, c'est moi.
C'est pas mal. La barbare, c'est bien.
Ça, c'est moi.
Et puis surtout, les hommes cruels ne courent pas les rues, ça, c'est le meilleur.
Ça, c'est Louise Brooks.
Ah, c'est elle qui disait ça.
Elle disait on ne tombe jamais amoureuse d'un homme gentil. On ne peut tomber amoureuse que d'un homme cruel. Hélas, les hommes cruels ne courent pas les rues. C'est sa grande théorie sur l'amour.
Et bien, je vous propose d'aller voir dans la rue s'il n'y a pas des hommes cruels qui courent. On est chez vous.
On les ramasse à la peine.
On est à Neuilly, vous allez nous faire visiter.
Ouais.
Nous sommes donc avec Catherine Pancol dans Neuilly-sur-Seine. On est rue de Chartres, il y a des magasins. Vous aimez Neuilly ?
J'adore le bois de Boulogne à Neuilly.
Ouais,
oh,
c'est vrai,
on va
c'est
passer tout à
côté.
L'heure. C'est
ouais.
Juste là.
Ouais.
Mais j'aime bien Neuilly, c'est rassurant, c'est calme.
C'est vrai ?
Ouais.
À l'époque romaine, il n'y avait que des pêcheurs.
Des pêcheurs ?
Ouais, bah oui, il y avait la Seine, Neuilly-sur-Seine.
Oui.
Et on pêchait. Ouais. Là, il y a un déménagement, c'est pour ça que ça fait du bruit.
Il y a un très bon magasin de chocolat.
Ouais. C'est considéré comme la ville la plus riche de France.
Ah ouais.
Devant Boulogne-Billancourt et Versailles.
Ouais.
C'est là où le revenu médian est le plus haut. Ah oui, d'où la beauté des magasins des chocolatiers.
C'est beau, hein.
Ouais. Ouais.
C'est bon en plus.
C'est vrai. Vous avez l'impression de vivre dans une ville riche ?
Ça dépend dans quel quartier vous allez à Paris après.
Oui.
Vous allez dans le 7e.
C'est très riche.
C'est très très riche là pour le coup. C'est encore plus riche que Neuilly. Vous avez un 6e, 7e.
Et ici, c'est vrai que c'est calme. Ça n'a pas toujours été calme. Hein. On s'est beaucoup battu ici.
Ah bon ?
Ah oui.
Et je savais quoi ? Il y a l'immeuble de Jacques Prévert en face du mien.
C'est vrai ?
Ouais.
Il habitait là ?
Il habitait juste en face.
Ah, j'imaginais pas Jacques Prévert habite en Neuilly.
Ouais. Beaucoup de gens qui habitent Neuilly. Hein.
Ouais.
Ils le disent pas. Ils ont honte. Guy Bedos, il habitait longtemps Neuilly. Il était furieux.
Le dénonçait pas.
Non, mais je veux dire que ça fait pas bien d'habiter Neuilly, quoi.
Ça dépend pour qui on vote.
Non, ça dépend. Je veux dire, vous pouvez, je sais pas moi. Marx, il a peut-être habité un quartier très chic à Londres. On n'en sait rien.
C'est possible.
Hein. Ouais.
Mais je disais ici, pendant la Commune, par exemple, vous parlez de Marx, on s'est beaucoup battu ici. Les fédérés s'étaient réfugiés ici. Les Versaillais ont bombardé, ils ont détruit 500 maisons.
Ah, je savais pas.
Bah, c'était quasiment Neuilly-la-Rouge à l'époque.
Ouais,
en 1848, pareil.
Ah oui.
Ouais. Mmh.
Peut-être ça va recommencer. Hein.
Allez savoir.
On n'est jamais sûr de rien.
Vous avez remarqué, en général, partout il y a des émeutes. Enfin, il n'y a pas des émeutes tout le temps, mais partout où il y a des émeutes, en fait, les gens n'attaquent jamais les quartiers riches.
Regardez, ah, c'est vrai.
Los Angeles, à Beverly Hills, vous imaginez, les maisons, tout le monde peut rentrer dans les maisons, il n'y a même pas de clôture. Personne n'a jamais fait ça.
Ouais. Les gens n'ont pas d'imagination.
C'est peut-être pour ça, c'est qu'ils respectent la propriété privée, plus qu'on le dit.
Ouais.
Sont plus citoyens qu'on ne le dit. On arrive sur l'avenue du Roule.
Mmh.
Maintenant, je crois, a été rebaptisée. C'est l'avenue
Achille
Péretti.
C'est là, la librairie.
Et là, il y a
mais tout
librairie.
Le monde continue à dire avenue du Roule. Hein.
Ouais.
Personne dit avenue Achille Péretti.
On parlait de vos titres. Alors, d'où vient celui de votre dernier roman, Bed Bug ?
D'abord, j'aime bien Bed Bug.
Ouais,
j'aime bien le son. En plus, ça parle d'amour.
Bed, c'est le lit.
De plaisir, de désir. Qu'est-ce que le désir ?
Ouais, donc le lit.
Voilà, le lit. Et de tous les couacs qui accompagnent
donc
ce thème.
Bug.
Et le bug.
Et puis il y a un jeu de mots sur l'insecte.
Oui, et comme l'héroïne est biologiste,
ouais.
Elle étudie les insectes, parce que maintenant les insectes, on s'en sert pour tout. Et grâce à l'insecte qu'elle étudie, qui est une petite luciole alsacienne, elle va... Mais c'est vrai, hein, c'est une histoire vraie. Hein, je sais pas, j'ai rien inventé, là. Tout ce qui est insecte et biologie, c'est absolument vrai. Elle va pouvoir guérir le cancer sans souffrance ni maladie secondaire.
Ah oui ?
Donc ça va être commercialisé dans 5 ans, 10 ans, on ne sait pas encore.
Enfin bon, l'histoire, c'est quand même l'histoire d'une jeune biologiste qui s'y connaît très très bien en vie sexuelle des insectes et qui ne comprend rien de ses propres débordements amoureux.
Voilà, exactement. Voilà la librairie.
La librairie du Roule, toute rouge.
Et Martine, la libraire.
Ah oui, vous la connaissez bien.
Qui est un personnage.
Les gens lisent beaucoup à Neuilly.
Enfin, lui demander à elle. Hein. Moi, je ne vends pas mes livres sur le trottoir.
On va lui poser la question. Neuilly, c'est marrant parce que c'est une ville qui a inspiré souvent des chansons. Vous en connaissez les chansons sur Neuilly ?
Non.
Il y a Neuilly Blues.
Non.
Vous connaissez pas Neuilly Blues de Gilbert Lafay ?
Je connais Neuilly brûle-t-il de Laurent Chalumeau.
Ah oui, ça c'était un roman. Oui, il y a Neuilly ta mère aussi.
J'aime beaucoup Laurent Chalumeau. J'aime bien la manière dont il écrit.
Oui, c'est vrai que c'est pas mal.
Ouais, vachement bien.
Et Gilbert Lafay, c'est autre chose. Mais Neuilly Blues, ça a eu beaucoup de succès. Vous deviez être aux États-Unis à l'époque.
Ouais.
On va l'écouter.
Mais qu'est-ce que je pourrais dire ? J'ai rien à chanter. Pas d'enfance martyre. personne m'a aidé. Jamais été battu, ni fouetté, ni giflé. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Et j'ai beau chercher partout, ressasser sans arrêt mon passé, revoir toute mon enfance, mais j'ai jamais souffert. Les vacances à la mer, les cadeaux à Noël, les habits à la mode, les petits cours de latin. Y'en a qui ont du bol, qui ont de longues maladies, des parents alcooliques, une lourde hérédité. Eux, ils en ont à dire. Moi, j'ai rien à chanter. Je virais toutes les cuties, sauf une fois, à cause du timbre qui s'était décollé dans mon bain. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly Blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly Blues. Mais qu'est-ce que je peux dire, j'ai rien à chanter, j'ai pas pu choisir, c'est lourd le passé. Jamais été soudeur, ni mineur, ni tôlard, le destin, tu peux pas lutter contre. Et j'ai beau chercher partout, fouiller dans les archives de famille jusqu'au cousin Germain, pas trace de mes talons. Ingénieur, professeur, avocat, chirurgien, musicien, journaliste, critique d'art, PDG. Y'en a qui ont du bol, qui sont nés dans la zone, qui ont bossé en usine, vécu en HLM, toujours tout pour les mêmes. Moi j'ai rien à chanter. J'ai redoublé ma sixième, et encore c'était juste. J'ai bien failli passer. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly Blues. J'ai le blues. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rien à chanter, rien qui puisse servir, rien à exploiter. Si seulement j'étais noir, juif, arabe, portugais, non, je suis là, rose et frais, bien français, la tuile. Et j'ai beau chercher partout, faire le tour des amis, des copains éloignés, pas le moindre immigré. Des Thierry, des Chantal, des Jean-Charles, des Arnaud, des Benoît, des Solange, pas d'Abdoul, pas d'Ahmed. Ah, y'en a qui du bol, qui se font tabasser, privés d'identité, inculpés, expulsés. Ça, c'est des bons sujets. Moi, j'ai rien à chanter. J'ai vécu sans histoire. Et y a toujours eu des femmes de ménage à la maison. J'ai le blues de Neuilly. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly Blues. Encore une fois, j'ai le blues de Neuilly, Neuilly Blues. Ouais, j'ai le blues de Neuilly, Neuilly Blues.
C'était Gilbert Lafaye qui chantait Neuilly Blues. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas dû entendre cette chanson à la radio.
Ouais,
c'est grâce à vous, Catherine Pancol. En dépit des millions de livres que vous avez vendus, est-ce que vous êtes encore, toute... est-ce que vous anticipez la sortie du nouveau?
C'est très très bizarre parce que jusqu'à 15 jours avant, j'y pense pas du tout, du tout, du tout. Mais pas du tout, du tout.
Vous l'avez terminé à combien de temps déjà?
J'ai terminé fin juillet.
Ouais.
Donc, août tranquille, septembre tranquille. Et là, depuis une semaine, je me dis, je suis saisie d'un trac terrible.
Ouais. Mais parce que vous avez peur que ce soit mauvais, vous avez peur que non, ça intéresse personne.
Mais tant que c'est pas sorti, ça vous appartient complètement.
Ah oui.
Et là, le fait que tout le monde va le lire.
Enfin, tout le monde, n'exagérez pas.
Ouais, j'exagère un peu. En fait, je suis du midi, moi. Je n'ai pas l'air.
Non, mais vous en avez vendu tellement, je comprends. Vous avez le droit de faire ce genre de...
De saut dans l'espace.
Ouais. Il paraît que vous en vendez énormément en Russie, en Chine.
Oui.
Ouais. C'est marrant, vous en avez parlé avec les Chinois, les Russes.
Mais alors si, quand je suis allée en Russie, c'était touchant. Mais le problème, c'est qu'on savait pas, on n'arrivait pas à parler.
Ouais.
Quand vous faites des signatures en France, les gens vous parlent, ils vous racontent leur vie. En Russie, on était là à bouger les mains dans l'air. Alors, elle m'a apporté des gâteaux, des gants pour la cuisine.
En Chine, vous avez préféré pas y aller?
Non, en Chine, non. Le problème, en Chine, c'est loin, quoi.
Oui, enfin.
Si, c'est loin. Et je voulais rester au moins 15 jours, 3 semaines. Donc il faut que je trouve un partir longtemps en Chine.
Ouais. Mais je croyais que vous vouliez être voyageuse, c'est le moment.
Oui, mais le problème, c'est que maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup de choses sur le feu. J'écris beaucoup sur beaucoup de choses. Ouais. J'écris, là, j'ai commencé une bande dessinée.
Ah oui ?
Vous n'avez pas vu sur Instagram ?
Non, j'ai vu que vous faisiez des bandes dessinées pour annoncer la sortie du livre.
Voilà.
C'est celle-là ?
Oui, c'est celle-là.
Ah oui, celle-là, je l'ai
mais
vu.
J'ai envie d'en faire.
Mais ce n'est pas vous qui dessinez ?
Non. Mais on a fait le séquencier et tout. Avec... Non, mais c'est drôle à faire. J'ai écrit des livres pour enfants.
Oui, ça, j'ai
McDo.
Vu.
McDo.
Vous avez écrit des feuilletons pour Canal+.
On a écrit des feuilletons. J'écris des feuilletons. Je travaille beaucoup finalement. Ouais. Donc arriver à faire 3 semaines, je voudrais partir 3 semaines à moi en Chine.
Oui, je comprends. Et alors là, maintenant que vous écrivez, en ce moment, vous n'êtes pas sur un roman.
Non.
Vous pouvez en lire.
Oui.
C'est pour ça que vous allez livrer.
Oui. Martine me conseille des bouquins.
Ben allons voir Martine. On va voir ce qu'elle vous conseille. Bonjour Martine.
Voilà Martine. Je l'embrasse.
Elle s'embrasse. Bonjour Martine. Nous sommes donc à la librairie du Roule, 67 avenue du Roule. Pourquoi est-ce que c'est rouge à l'extérieur ? Pourquoi est-ce que c'est si flashy ?
Si c'est rouge à l'extérieur, c'est surtout à l'extérieur. Bah, c'est pour la voir. J'ai
oui,
fait faire la peinture il n'y a pas longtemps pour qu'on la voit encore plus.
Oui, c'est ça.
Et, oui. Et malgré tout. Parfois, on ne la voit pas.
Oh, ça m'étonne. Comment l'expliquez-vous ?
C'est parce que les gens ne regardent pas.
Vous croyez que c'est ça ?
Je pense, oui.
Catherine Pancol me dit que c'est vous qui lui avez recommandé des romans.
Si je recommande des romans, bien sûr.
Ouais.
Mais parfois, elle m'en recommande aussi.
On fait des échanges.
Échange de bonnes idées.
Ouais.
Tu vois qu'il y a la fille de Vercingétorix, le nouvel Astérix.
Oui.
Il y a une pile énorme.
Oui, j'en ai reçu 140.
Ah ouais.
Oui. Mais je ne m'appelle pas la FNAC pourtant. Hein.
Ouais, c'est dingue. Et pourtant, il n'y a même plus Goscinny, il n'y a même plus Uderzo.
Non, mais justement, c'est par curiosité.
C'est
ils veulent relancer.
C'est dingue.
Non, mais ils mettent les noms en gros. Goscinny et Uderzo, mais ce n'est pas eux. Hein.
Oui. Non, mais je sais que ce n'est pas eux.
Ils veulent relancer les petits qui sont en dessous des grands.
Eh oui.
Ça se trouve, un jour, on vendra des Catherine Pancol qui seront écrites par quelqu'un d'autre.
En bande dessinée, ça sera rigolo. Je les vois très bien, ces personnages en bande dessinée.
Ouais, moi aussi, je les trouve bien. Il n'a pas regardé.
Si, j'ai regardé un petit peu.
Il n'a pas lu son livre.
Ouais,
si, j'ai lu le livre.
Pourtant, Rose, elle est attachante. Hein.
Oui, la petite biologiste.
Oui.
Bien sûr, vous les lisez avant, vous.
Oui.
Parce que c'est votre voisine.
Ah, mais tous mes livres, j'ai lu avant.
C'est vrai ?
Martine, elle lit énormément.
Ah, c'est incroyable.
Comme ça,
le métier, hein.
Non, mais des libraires qui ne prennent pas le temps de lire.
Par exemple, là, Gorbatchev, le futur du monde global, vous l'avez lu avant ?
Alors, il y a des choses où je fais des impasses.
Bon, je ne vous demanderai pas sur lesquelles vous faites des impasses.
Non, ne posez pas la question.
Est-ce que vous lui faites après des petites remarques, des petites critiques, puisque à Catherine ?
À Catherine, ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'arrive, je fais ça gentiment.
Ouais.
Grande bavardie.
C'est rare.
Vous le prenez bien quand on vous fait des critiques ?
Quand elles sont bienveillantes, oui, c'est bien. Mais genre les critiques systématiques...
Journaux.
On se demande même si les gens ont lu, quoi.
Ouais.
C'est ça le truc.
Ah oui, c'est à ce point-là ?
Bah, oui.
Parfois, on pense ça. Martine, je me suis toujours demandé, c'est quoi l'odeur qu'il y a dans les librairies ? Vous avez chez vous, là, il y a l'odeur typique de la librairie, de la vieille librairie,
oui,
de la vraie librairie.
C'est quoi, un mélange de papier et de poussière.
Vous pensez que c'est ça ? Il n'y a pas le bois aussi ?
Et puis le bois, ça, certainement. Ouais. Oui.
Frédéric Taddeï se balade avec Catherine Pancol sur Europe 1.
Je vois que vous avez encore l'affiche avec Marcel Proust, prix Goncourt 1919.
Oui, parce que nous sommes toujours en 19 et en 19 il va mourir. Donc ça fera encore 100 ans. Et on a célébré ici pendant un mois le prix Goncourt qu'il a eu. Donc j'avais fait une vitrine, j'avais fait des animations. C'était très bien. Enfin, ça a beaucoup plu en tout cas.
J'imagine que Proust, ça se vend bien à Neuilly. J'imagine qu'il y a des auteurs qui se vendent bien mieux à Neuilly qu'ailleurs,
non ? Bien sûr.
Proust, à mon avis, ça marche bien. Louis Ferdinand Céline, moins, je pense.
Je le vends quand même.
Ah bon ?
Oui. Moins, évidemment, mais quand même, je le vends bien. Oui, il y a des amateurs.
Ça, c'est un a priori, hein, Frédéric ?
Oui, peut-être. Mauriac, ça doit bien se vendre, non ?
Mauriac, il se vend de moins en moins.
Ah bon ?
De moins en moins lu. Ouais.
Et qu'est-ce qui se vend de plus en plus, alors?
Alors, moi, j'ai une passion pour Modiano.
Ah oui.
Donc, je vends du Modiano. Ouais. Évidemment, je vends Pancol, mais c'est normal. C'est parce que Pancol a un grand éventail, Modiano.
Ouais.
C'est plus restreint.
Ouais. Et pourtant, il vend bien, quand même. Mais Pancol, c'est un phénomène.
Aussi. Modiano aussi. Oui. Chacun dans son genre.
Mais au début, Catherine, je pense que vous vendiez surtout aux femmes. Et aujourd'hui, je pense que c'est à tout le monde.
Ouais. Oui, ça s'est élargi.
Ouais, c'est bizarre. Comment c'est... Peut-être parce que les hommes se sont féminisés.
Ouais. Ou que son écriture s'est masculinisée.
Ah, oui. On peut l'expliquer comme ça aussi.
Ouais.
À votre avis, vous y avez fait un effort?
J'ai pris des hormones. J'avoue
tout. Vous dire, tiens, il faut que je vende aux hommes.
Ah non, non, moi je ne me dis pas tout ça.
On est quand même la moitié de l'humanité. Il ne faudrait pas nous oublier.
Encore, encore.
Il ne faut pas nous oublier.
Ouais, non.
On ne peut pas vous oublier. On ne vous oubliera jamais.
Ouais. On gardera toujours une petite place pour vous.
Oh, bah oui.
Mais d'ailleurs, dans tous vos romans, les filles cherchent toujours l'homme de leur vie, le prince charmant, l'homme idéal.
Parce que je crois que c'est vraiment attaché à l'imagination féminine. Même si les femmes luttent farouchement contre cette idée de prince charmant. Elles n'en veulent pas.
Ce que je trouve très bizarre, c'est que la plupart de vos lectrices, elles l'ont trouvé, l'homme de leur vie.
Non, non, non.
Non ?
Ah non.
Elles le cherchent encore.
Elles le cherchent encore. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent encore. Hein.
Ah oui. Oh,
parce que moi, le personnage de Rose, je l'ai construit en parlant avec des femmes, mais partout, pas seulement en France. Et c'est là où je me suis dit, c'est incroyable, le prince charmant, ça existe encore. C'est-à-dire qu'elles sont très délurées, mais zéro problème, pas de complexe, rien. Mais il y a toujours ce fantasme de prince charmant.
Même quand elles sont mariées avec trois enfants, elles continuent de chercher
une personne. Non, là, elles sont un peu amorties. Là,
ça, se reposent.
Non, c'est vrai, là, elles sont prises par beaucoup de choses. Quand même.
Mais elles vont se remettre en quête dans pas longtemps.
Bah, soit forcées par la vie, parce que celui qu'elles croyaient le prince charmant ne l'est pas.
Elle est partie.
Soit, je ne sais pas, parce que elles sont lassées. Mais moi, j'ai pris plutôt la tranche d'âge 25-30, parce que c'est un âge intéressant. C'est l'âge où elles se disent « il faudrait peut-être que je me case ». Et en même temps, je n'ai pas envie. Elles ont un boulot. C'est sûr qu'elles sont indépendantes professionnellement. Beaucoup, beaucoup de femmes.
Martine, je ne veux pas être indiscret. Je ne vais pas vous demander si vous cherchez le prince charmant.
Toujours.
Elle l'a toujours.
Un ou deux, trois. Oui. Après, on fait le choix.
Bah, la boutique n'est pas si grande.
Non, mais il faut aller voir. Ils sont tous enchaînés derrière.
Et c'est vrai que la plupart... Vous ne vendez que des romans d'amour quand on y pense. Hein. La plupart des romans, ça parle d'amour toujours.
Bah, c'est une grande place dans la vie.
Ouais.
C'est la plus grande place.
Il en parle avec mépris.
Oui.
Non, non, pas avec mépris. Mais je suis toujours étonné qu'on arrive toujours à se passionner pour ce sujet inépuisable.
Mais tous les sujets ont été traités. Tous les sujets.
Mais oui, c'est ça.
Et on continue à les traiter d'une façon différente.
C'est ça.
On évolue.
Et puis on croit toujours qu'on débute en plus avec l'amour. On a toujours l'impression.
Non, bah oui.
Non, on croit qu'on va y arriver.
Oui, oui, ou qu'on invente.
Qu'on invente, oui, c'est vrai.
Alors qu'en fait, il y a déjà eu.
Ouais, oui, oui. Il y a un tapis de mort à nos pieds et on continue à escalader.
Bon, ben je vous laisse avec ce tapis de mort à vos pieds, Martine.
Eh bien, je vous remercie.
Passez une bonne journée.
Merci à vous aussi.
Vous ne verriez pas finir libraire
J'y ai pensé. Hein.
Bah oui,
j'ai vraiment, surtout une librairie comme celle-là.
Ouais.
Ça serait, j'adorerais.
Oh, venez travailler avec moi.
Oui, bah, j'aimerais beaucoup. On s'amuserait bien. En plus. Mmh. Martine, je te rappelle, ne décroche pas quand les gens appellent si elle est en train de parler d'un livre.
C'est pas normal.
C'est normal.
Oui, la politesse.
Enfin, c'est la politesse. Combien de gens sont polis alors, encore. Elle laisse le téléphone sonner. Ça peut être une grosse commande. Elle s'en fiche complètement. J'adore ça. Mais oui, mais c'est formidable. C'est une passion.
C'est une vraie passion.
Voilà.
Au revoir Martine, à bientôt.
C'est ça que j'aime Martine.
Frédéric Taddeï, en balade avec Catherine Pancol sur Europe 1.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Catherine Pancol dans Neuilly, qu'elle habite. On passe devant le Théâtre des Sablons. Il paraît que vous avez été pompiste à une époque.
Oui, un moment pour gagner de l'argent, j'étais... Je travaillais dans une station-service. Et non, j'ai fait plein de choses comme petit boulot, mais ça m'a servi après. Parce
mais pompiste
que...
pendant longtemps ?
Non, j'étais pompiste pendant 15 jours. Je conduisais des vannes dans des entrepôts. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vendu des lessives. Ah on se travaillait avec des cartons de lessives.
C'est le salaire de la peur, votre jeunesse.
Non, mais c'était pittoresque. Puis c'était des, chaque fois, des, je m'inscrivais dans des, comment s'appelait ça, les agences
d'intérim.
Intérim, voilà, intérimaire. J'allais à la fac dans la semaine et j'ai su trouver des boulots. Je repeignais des pneus la nuit. C'était hyper bien payé.
Ouais. C'est vrai. Vous étiez débrouillarde. Hein.
Bah, il fallait bien, il y a des moments où l'intérêt est débrouillard.
Non, mais souvent, on se contente de petits jobs toujours les mêmes quand on est étudiant. Il n'y a pas en France la culture du job comme chez les Américains.
Mais moi, c'était plus que pour être étudiante. C'était parce qu'il fallait que je vive. Parce que j'étais, moi, je me suis retrouvée à Paris toute seule. J'avais quoi, 17 ans. Donc, mes parents étaient, ma mère était partie aux États-Unis. Mon père, je ne savais pas où il était. Donc, il fallait que je subvienne à mes besoins.
Oui, évidemment.
Donc, ce n'était pas de l'argent de poche. Il fallait vraiment que ça rentre. Ouais. Mais c'est très... je pense que ça m'a donné beaucoup d'idées.
Je repense à la conversation qu'on avait avec Martine dans sa librairie sur l'amour. Bed Bug, ça parle d'amour comme...
dans ça parle d'abord. De désir.
Oui, comme moi d'abord, il y a 40 ans maintenant.
Absolument.
Et, mais au fond, en même temps, vous n'en parlez pas de la même manière. Est-ce que c'est l'amour qui a changé ou est-ce que c'est vous?
C'est moi, hein, quand même.
Bah, pas forcément.
L'amour, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez éternel. Là, quand on parlait du prince charmant, c'est éternel, le prince charmant.
Oui, mais vous savez bien que quand on parle de la liberté, par exemple, on ne parle pas tous de la même chose.
Non. D'ailleurs...
Et l'amour, c'est peut-être pareil.
Absolument. Je lis un roman en ce moment de Vassili Grossman.
Ouais.
Il s'appelle Tout passe. Vous avez lu ça?
Non, j'ai lu Vie et destin.
Voilà, mais lisez Tout passe, parce que c'est absolument formidable. Parce que justement, il explique ce que c'est que la lâcheté... ou la trahison sous Staline.
Ouais.
Et l'effet que fait la peur aux gens. Et qu'il y a des tas de formes de lâcheté. Il n'y a pas une seule manière d'être lâche. Il n'y a pas une seule manière de trahir. Et je pense que l'amour, c'est pareil.
Oui. Et puis, ça dépend plus de la personne qu'on aime, non? On n'aime pas... On parle pas. L'amour signifie pas la même chose selon les personnes qu'on aime.
Je ne suis pas d'accord.
Hein?
Non.
Vous aimez toujours de la même façon?
Non, je pense que l'amour... Enfin, l'amour... Pas l'amour. L'amour, dans ses premières... Ah, bonjour. L'amour, non, oui. L'amour dans ses premières manifestations, c'est-à-dire le désir, l'envie de fusion, c'est toujours à peu près pareil. On recherche quelque chose qu'on a perdu.
Vous appelez ça l'envie de fusion, vous?
Oui, quand même. On, a,
on appelle on ça est le désir sexuel.
Ah, non.
Ah non.
Non, pas du tout. Non, il y a un besoin de fusion.
De fusion, ouais.
Donc, c'est qu'on a perdu quelque chose dans son enfance, une innocence qu'on a perdue, ou un besoin de quelque chose pour combler cette innocence perdue, et on se projette sur la personne.
Quand on parle d'amour comme ça, je fais penser à Johnny Hallyday, lui, il disait toujours « l'amour ».
Ouais.
Et je me demandais toujours s'il parlait de la même chose que les autres, ou si c'était un autre mot. Vous avez beaucoup de Johnny Hallyday.
Ouais, je fais beaucoup de Johnny
Hallyday. Vous l'écoutez quand il chante comme un corbeau blanc. Là, il parle beaucoup d'amour.
Europe 1, en balade avec Catherine Pancol, Frédéric Tabéhi.
Comme un corbeau blanc. vampire. Ouais.
Comme un corbeau blanc, chanté par Johnny Hallyday. Qu'est-ce qui vous plaisait chez Johnny Hallyday?
Je sais pas, j'aimais beaucoup. Je trouvais que c'était quelqu'un de... Il était à la fois extrêmement séduisant, sexy, viril, et à la fois extrêmement perdu, fragile. Donc c'est pour ça qu'il a inspiré tellement de désir, par exemple. Ouais. Voilà quelqu'un qui a inspiré le désir.
Mais vous aimiez Johnny Hallyday à une époque où c'était pas du tout la mode d'aimer Johnny Hallyday.
Non, je m'en cachais farouchement.
Parce que c'était l'époque de Guy Lux à la télévision.
Quand il
chantait « J'ai un problème
». Ah ouais, mais moi j'adorais ça.
Ça devait pas être facile à l'époque. Vous pouviez le dire à vos amis?
Non, je me rappelle quand j'étais en fac, justement, j'avais fait un pari. J'avais emmené mon TP au Palais des Sports voir un spectacle de Johnny, parce qu'ils étaient tous tellement, ils crachaient tellement tous sur Johnny, je leur avais dit, mais vous ne l'avez jamais vu sur scène. Et je dois dire qu'ils avaient été assez bluffés.
Oui.
Ils avaient arrêté de se moquer.
Bon, quand même.
Non, c'est vrai, après, on en a fait une icône et tout ça, mais il a été méprisé longtemps, hein, Johnny Hallyday.
Oui. Vous l'avez vu souvent en concert?
J'y suis allée assez souvent.
Ouais, vraiment une groupie.
Oui, non, j'aimais beaucoup, beaucoup.
On va traverser l'avenue Gérald de Gaulle.
Ça, c'est voilà.
À Neuilly, il faut dire que c'est une grande artère. On se retrouve quand on sera de l'autre côté.
Frédéric Taddeï, en balade avec Catherine Pancol sur Europe 1.
Nous arrivons boulevard des Sablons, toujours à Neuilly, avec Catherine Pancol. On s'approche du Bois de Boulogne, que vous adorez.
J'adore le Bois de Boulogne. Et là, il y a une maison.
Oui.
Les volets sont toujours fermés. Et c'est peut-être pour ça que quand j'étais petite, je passais devant cette maison. Et il y avait une maison comme ça, un immeuble comme ça aussi, île Saint-Louis. Et je me racontais des histoires. Mais,
sur les gens qui y habitaient?
Non, comment moi j'allais finir par habiter cette maison. Vous voyez? Et c'était... Mais alors, c'était la nuit.
C'est celle qu'on voit là.
Voilà, c'est celle-là.
Ce petit hôtel particulier.
Et il va être réhabilité.
Ouais. Les volets sont
regardez,
fermés,
il y a écrit la vie de Jean-Charles.
Ouais.
C'est drôle.
Et c'est sur la boîte à lettres qu'ils ont écrit la vie de Jean-Charles.
Ça me prenait mais des soirées entières. J'imaginais que... Alors, avant d'arriver à habiter cette maison, il m'arrivait évidemment beaucoup, beaucoup d'aventures. Ouais. Mais je finissais toujours, évidemment, par habiter cette maison.
Et vous n'avez jamais fini par habiter aucune des maisons dont vous aviez rêvé?
Non, ça n'a pas marché.
C'est dommage, à quoi ça sert de vendre autant de livres?
Non, à quoi ça sert de rêver autant?
Oui, bah vous rêvez de l'Argentine, vous n'y êtes toujours pas allé.
Oui, mais peut-être que c'est ça les rêves, en fait, c'est de jamais y arriver. Il faut que ça reste un rêve.
Je pense que le monde se divise en deux, ceux qui veulent réaliser leurs fantasmes et ceux qui préfèrent avoir des fantasmes plutôt que de les réaliser.
Oui, peut-être, c'est vrai, c'est comme ça. Mais ça donne un but dans la vie, hein.
Oui, ou en tout cas, ça occupe.
Peut-être qu'un jour, j'irai en Argentine. Peut-être qu'un jour, j'habiterai cet hôtel particulier.
On croise beaucoup de jeunes gens, c'est une ville familiale, Neuilly. Comment trouvez les jeunes filles d'aujourd'hui?
Les jeunes filles d'aujourd'hui?
Oui.
Ben, je les trouve toutes différentes les unes des autres, il n'y a, y a pas un label.
Non, je ne sais pas, parfois on les regarde en bloc. Comment on regardait votre génération en bloc autrefois?
Oui, mais les choses qu'on regarde en bloc, ce n'est pas intéressant.
Ah oui?
Ce qui est intéressant, c'est le détail.
Sans doute, mais parfois le détail est révélateur. Par exemple, moi d'abord, vous l'avez publié en 79, et c'était vraiment les filles des années 80 qu'on voyait dedans. Mmh. Et elles vont être comme ça.
Ouais.
En tout cas, on va les voir comme ça.
Ouais.
Peut-être pas en détail, mais en bloc, oui.
Ouais. Oui, mais le bloc est rarement... la généralité est rarement intéressante. Vous ne pouvez pas dire les hommes, ils sont comme ça.
Non,
les femmes, elles sont comme ça.
Mais on peut voir ce que...
Les jeunes, ils sont comme ça. Les vieux, ils sont comme ça.
On peut voir ce que les jeunes ont de différent de vous.
Ah ben ça, je le vois. Ça, c'est facile. Hein.
C'est pas là-dessus que je voulais insister. Je voulais bien parler. Ce qu'ils peuvent avoir de différent.
Non, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a de permanent dans la nature humaine.
Ah oui.
Ou qu'est-ce qui a changé dans la nature humaine.
Et vous trouvez que beaucoup de choses ont changé?
Je trouve que beaucoup de choses ont changé vu de l'extérieur. Et il y a beaucoup de choses qui, à mon grand étonnement, n'ont pas changé à l'intérieur.
Moi, j'ai l'impression que l'homme est plus près du singe que les femmes de la guenon.
Ça, c'est gentil. C'est pas faux, d'ailleurs.
Vous avez plus évolué que nous.
Oui, c'est vrai. On a beaucoup plus évolué que vous. Mais on est multi-cartes et multi-couteaux, nous. Vous pouvez faire une seule chose à la fois, nous. On peut faire énormément de choses à la fois. On est habitué comme ça.
Oui, peut-être. Ça compte.
Ouais.
Non, mais même, vous êtes plus raffinés. Nous, au fond, on est contents avec des riens.
Vous êtes quoi ?
On est contents avec des riens.
Oui. Oui.
Mais bon, là, je généralise.
Là, on généralise. Ouais, c'est ouais, enfin, vous voyez, ça c'est coupe la chic de généraliser.
Europe 1, 11h30, en balade avec Catherine Pancol, Frédéric Taddeï.
On arrive au jardin d'acclimatation.
Sentir bien, là.
Où des générations et des générations d'enfants. C'était l'ancêtre des parcs d'attractions.
Oui.
Vous veniez ici, vous ?
J'ai amené mes enfants ici.
Ouais.
C'est sûr.
Mais vous n'avez pas grandi.
Non. J'ai amené mes enfants parce que c'était. Il y a des attractions formidables.
Vraiment, ouais, en même temps, ça paraît tout petit. Hein, et d'ailleurs, ça a rétréci depuis qu'on a fait la Fondation Vuitton.
Ça a rétréci vraiment parce qu'elle est plus loin quand même.
Oui, mais la Fondation Vuitton, ça a enlevé un bowling. Je crois que c'était
oui, il y avait un bowling avant.
Mais je crois que c'était dans le jardin d'acclimatation, le bowling, mais peut-être que je me trompe.
Non, mais je crois qu'ils ont supprimé le bowling pour faire la Fondation.
Absolument.
Alors là, il faut trouver le salon de thé.
Il est où le salon de thé? Là, il y a le petit train, ça va peut-être vous aider, le petit train du jardin d'acclimatation. Que les familles prenaient pour arriver jusqu'ici, et qui marche encore d'ailleurs.
Oui, qui marche toujours. Porte-maillot. Voilà.
C'est vrai qu'avec quelqu'un qui habite Neuilly, il faut forcément passer par le salon de thé.
Mais vous savez quoi, il n'y en a pas beaucoup à Neuilly, le salon de thé. On n'en a pas rencontré là, mais c'est étonnant. Je trouve qu'il n'y a pas de salon de thé à Neuilly, justement.
Il faut venir au jardin d'acclimatation pour prendre le train.
Mais là, il faut qu'on leur demande comment on arrive jusqu'au salon de thé, hein, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue.
Eh bien, on se retrouve juste après les infos au salon de thé, une fois qu'on l'aura trouvé.
Europe 1, en balade avec Catherine Pancol, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Catherine Pancol, que j'ai présentée comme la romancière la plus populaire de France. Ça ne vous dérange pas, Catherine ?
Si, j'aime pas ça. Encore une généralité.
Ce n'est pas une généralité, c'est objectif.
Oui, mais c'est abstrait.
Non, vous voulez qu'on parle tirage, des choses
non,
comme ça ?
Non, mais il faut qualifier.
Ouais. Vous préfériez la romancière la plus romantique ou...
Je sais pas. J'aime pas les choses générales.
D'accord, mais bon, ok.
Okay, voilà.
Bon, enfin, on est avec une romancière qui s'appelle Catherine Pancol, qui sort son 19e roman.
Ouais. Déjà, ça s'incarne davantage. L'écriture, c'est ça, en fait.
Bed Bug, chez Alma Michel.
Voilà. Oui,
et on cherchait... Et voulait nous emmener au salon de thé. Et il n'y a plus de salon de thé dans le jardin d'acclimatation.
Voilà, ce sont des choses qui arrivent.
Donc on marche dans le bois de Boulogne, un bien bel endroit. Vous y faites quoi, vous, dans le bois de Boulogne? Puisque vous n'y prenez pas le thé.
Je promène mon chien.
Ah bah oui, bien sûr.
Ouais. En direction de la Fondation Louis Vuitton.
Oui.
Il y a une exposition de Charlotte Perriand.
Voilà, vous avez...
Heureusement que je suis là.
Vous avez... Non mais moi je sais. Je sais. Je voulais ménager le suspense. Dès qu'on parle du bois de Boulogne, repère de brigands au Moyen-Âge, pendant la terreur, on s'y cachait.
Je vois cache-cache avec
Non, mais sérieusement, on se cachait dans le bois de Boulogne pendant la terreur.
Baudelaire habitait à Neuilly.
C'est vrai ?
Ouais.
Mais c'était au 19e siècle, à l'époque où ça... où ça,
ça devait déjà être un peu chic, parce que le général Hopi, qui était quelqu'un de très à cheval sur les principes.
Peut-être que le général Hopi était sur les lignes de front.
Oui, aussi.
On s'est entretué à Neuilly.
Ouais.
Le bois de Boulogne, ça fait assez penser à Central Park.
Ouais.
Vous avez décrit en long et en large dans un de vos romans, le plus célèbre d'ailleurs, je crois. Celui qui a... Ah non, c'est pas celui
qui a... Non, c'est les yeux jaunes des crocodiles, le plus célèbre.
Oui, qui a le mieux marché.
Ouais. Ouais.
Vous avez passé 10 ans à New York. Quels souvenirs en gardez-vous?
Là aussi, j'en ai beaucoup de souvenirs. 10 ans, c'est énorme.
Oui, c'est énorme, c'est vrai. C'était les années 80,
partout.
New York,
ouais,
dans les années 80, ça devait pas être mal.
C'était génial.
C'était pas encore la ville touristique.
Exactement. Exactement. Et il y avait une énergie qui a plus aujourd'hui, tout qui est peut-être disparu.
Ouais.
Je continue à y aller beaucoup à New York parce que j'ai des amis et j'aime bien, malgré tout, mais je trouve que c'est plus tout pareil.
Ils ont fermé le studio 54.
Oui, déjà.
C'était la grande boîte de nuit de l'époque, vous y alliez?
Oui, bien sûr.
Vous ne faites pas ce petit rire. Tout le monde n'allait pas au studio 54.
Quand on habitait New York.
Oui, il y en a plein qui n'y allaient pas.
Ouais.
C'était une grande boîte de nuit, mais ça ne pouvait pas accueillir le monde entier non plus.
Oui, mais en même temps, ça accueillait beaucoup, beaucoup de gens. Et ils avaient un truc formidable, c'est qu'on n'avait pas besoin d'être célèbre, introduite. Ils vous faisaient rentrer à la dégaine que vous aviez.
Ouais. Oui, il y avait des gens célèbres quand même. Hein.
Oui, à l'intérieur, il y avait des gens célèbres,
tout le temps.
Bien sûr.
Il y avait Madonna.
Il y avait Mick Jagger, David Bowie.
Vous les avez connus?
On est un peu obligé de les connaître.
Et là, qui vous préfériez?
Moi, j'étais intriguée par Bowie.
Oui. Qui ne le serait pas?
Qui ne le serait pas. Warhol m'a jamais fascinée. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais bon. Et puis, Mick Jagger, il était drôle. Il y avait toute cette faune autour. Il y avait Blondie. C'était vraiment les... Mais surtout, moi, quand j'ai découvert New York, mon grand choc, ça a été la peinture. Parce qu'en France, dans les musées, ça s'arrêtait 1920, 1920. Si, après, il y a eu Picasso et tout, mais il n'y avait pas cette culture de la peinture moderne, de l'abstrait qu'il y a à New York.
C'était la révolution du pop art. Nous, au même moment, on avait les nouveaux réalistes, mais eux, ils ne peignaient pas vraiment. Ils empilaient des objets.
Ils commençaient à faire les installations. Les
Américains, avec le pop art, ils peignaient les objets que nous, on empilait.
Exactement. Et donc, c'était un vrai monde que j'ai découvert, la peinture.
Et vous avez fait des vrais amis parmi ces peintres?
Pas énormément par rapport au temps que j'ai passé, mais je m'en suis fait des vrais. Les Américains, ils ont un côté très sympa, ils vous ouvrent les bras comme ça, très très grand, mais une fois que vous êtes sorti de la pièce, ils vous ont oublié, quoi.
Mais vous avez rencontré Jean-Michel Basquiat, par exemple?
Non, mais je voyais ses palissades peintes, parce qu'il peignait partout dans la rue, mais je ne l'ai pas rencontré, lui, non. J'ai rencontré Jasper Johns.
Oui, des drapeaux.
Oui, que j'ai...
Des drapeaux et des cibles.
Oui, exactement. Et j'ai très bien connu, et j'allais le voir peindre dans son studio, et c'était magnifique. C'était vraiment une leçon de tout, d'ailleurs. Concentration, de création.
Mais ils étaient en couple avec Robert Rauschenberg.
Voilà. Mais quand je l'ai connu, il n'était plus avec Rauschenberg.
C'était deux grands peintres du pop art qui vivaient ensemble, en fait. Qui étaient un couple.
Ils vivaient ensemble.
On arrive devant la fondation Louis Vuitton, qui doit faire dans les 40 mètres de haut, à peu près.
Je sais pas.
C'est Frank Gehry qui l'a, l'architecte. Vous êtes venu déjà.
À un moment, elle a été enveloppée.
Par Christo.
Voilà. C'était très, très beau. Et moi, je pensais qu'ils allaient laisser tout le temps comme ça, parce que c'était tellement beau.
Mais on avait déjà dit ça quand Christo avait emballé le Pont Neuf dans les années 80, je crois.
Et il paraît qu'il va emballer l'Arc de Triomphe.
Oui, il paraît.
Mais c'était très, très beau quand il avait emballé la fondation.
Et donc là, il y a une exposition consacrée à Charlotte Perriand, célèbre architecte et designeuse française. Qui est disparue il n'y a pas très longtemps, en fait. Elle est morte à 96 ans, en 1999.
Ah, je crois que c'était en 2000 et quelques, non? 99?
Ouais, je crois que c'est ça.
Et le vent souffle.
Et le vent souffle assez, oui. On se retrouve à l'intérieur de la Fondation avec Catherine Pancol dans un instant. Nous sommes avec Catherine Pancol dans la Fondation Louis Vuitton, au milieu de l'exposition consacrée à Charlotte Perriand. On est au milieu de ses meubles.
De l'appartement qu'elle avait créé pour l'exposition de 1939.
Ouais.
On vient de me le dire.
Vous avez des sentis sèches humains.
Oui.
Vous êtes sûr que c'est 1939, pas 1937 ouais, plutôt?
Non, c'est 1939, hein, hein. 1929.
Vous voyez
avec les chiffres. J'ai dyslexie avec les chiffres. Ouais. Je suis incapable d'en rappeler les chiffres.
Donc il y a des meubles de Le Corbusier, de ouais, Pierre Jeanneret, de Charlotte Perriand.
Il n'y a aucune cloison. Et la salle de bain dans la chambre, ce qui est mon rêve à moi.
Ah oui,
salle de bain dans la chambre. Magnifique. Rien, je trouve. Hein, quand ah, moi j'adore quand la salle de bain dans la chambre. Ouais. Parce que ça enlève le côté hygiénique de la salle de bain.
Oui, on hein peut. Oui, c'est un peu. Puis on est comme en prison. Ouais. On est enfermé. Je ne sais pas pourquoi ils nous enferment comme
dans
ça.
Dans une salle de bain normale.
Oui.
Dans celle-là, on n'est pas enfermé.
Mais non.
Voilà. On ressent la même chose. Exactement.
Amoureux,
exactement.
Je sais pas quoi. Oui, on enregistre.
C'est sympathique.
Mais maintenant, il y a de plus en plus de chambres d'hôtel comme ça.
Avec oui,
la baignoire à côté du lit, ah ouais, ou la douche non, à côté non, du
si
lit.
Si je faisais une maison, j'aurais la baignoire
dans la chambre.
Oui, ouais, oui, dans tout. Ouais, oui, oui, ouverte. Oui, oui, c'est beau. Ouais. Parce que je ne sais pas pourquoi on enferme comme
j'ai
ça.
Aussi.
Les toilettes aussi, c'est horrible.
Les toilettes, on peut les enfermer quand même.
Oui, mais enfin, quand même, c'est ouais, petit, on est là-dedans.
Oui, mais quand même, il vaut mieux les toilettes.
Vous pensez?
Oui.
Ça dépend.
Alors, il faut manger que des fraises là, et des pétales de rose.
Ou des petites pilules.
Ou des petites pilules.
Merci, madame. Bonne promenade.
Merci, au revoir.
Europe 1, en balade avec Catherine Pancol, Frédéric Tadéhi.
Qu'est-ce qui vous empêche de mettre une salle de bain au milieu de...
Moi, je l'ai fait. Je n'osais pas lui dire à la dame. Mais j'ai fini par le faire. Et c'est formidable.
Ouais.
Parce que c'est vrai qu'on a l'impression de prendre son bain dans son lit. Même si ce n'est qu'une impression. Et ce tableau, et ce bureau-là.
Il est massif. Hein.
Mais il est massif, mais il est élégant et ouais, presque fluide.
C'est son bureau boomerang.
Ah ouais.
Jean-Michel Bloch.
Oh là là, j'aimerais
1938.
Bien avoir un bureau comme ça.
C'est vrai?
Ouais, vraiment. Il faudrait que j'aie aussi toute la pièce qui va avec.
Et il y a un fauteuil pivotant. Et puis devant nous, il y a quand même...
Ouais.
Il y a Guernica. Hein.
Je plaisante pas. Hein.
Alors c'est le carton de la tapisserie. Hein. Ce n'est pas le vrai tableau de Picasso qui lui est en Espagne. Alors ils ont mis pas seulement des meubles de Charlotte Perriand, mais aussi des œuvres, des tableaux de peintres, d'artistes de la même époque, au fond.
C'est incroyable, la modernité des meubles. Parce que quand même, c'était pas du tout le goût de l'époque. Hein. Je veux dire, ça serait intéressant de savoir si les gens achetaient à l'époque.
On dirait un peu des meubles pour enfants, d'ailleurs. Vous voyez, ils ont un côté ludique.
Un peu art brut, aussi.
Ce sont des dessins de Le Corbusier des années 30. Alors, en fait, toutes ces tables que l'on voit... aux formes libres, comme on dit, date de la fin des années 30.
Ouais.
On va aller à l'étage au-dessus.
Frédéric Tadéhi se balade avec Catherine Pancol sur Europe 1.
Mais là, je trouve que je reviens d'une exposition que j'ai vue à Aix-en-Provence.
Tout le temps à Aix-en-Provence, c'est là où vous avez grandi, non ?
Oui. Sur Fabienne Verdier, et je trouve qu'il y a une force.
Ah oui?
Ah, je trouve qu'il y a une force incroyable chez ces deux femmes-là, en tout cas, Fabienne Verdier et Charlotte Perriand, une force de création qui vous... Moi, devant Fabienne Verdier, j'étais comme terrassée, quoi. J'arrivais plus à quitter le tableau. C'est quelque chose qui sort du tableau, qui vous happe. Alors que quand on le regarde, on se dit c'est... C'est simple, quoi. Elle est partie de la calligraphie. Et c'est évident, fort.
Vous achetez des tableaux de temps
en
temps?
Oui, j'en achète à New York, de jeunes artistes débutants.
Oui.
je pense toujours avec... je me demande toujours ce qui se passe dans la tête des types qui sont gardiens de salles dans les musées, qui passent leur journée à voir passer des gens, à la fois à les surveiller, et au milieu de, d'œuvres d'art souvent magnifiques. Je me demande s'ils sont changés à la fin. Aussi.
Et surtout, ça ferait de très bons critiques d'art. On pourrait les interroger sur toutes les expositions.
Oui, on va faire prendre des notes.
Vous ne décrivez pas tellement les meubles dans vos romans.
Non.
Ou...
Non,
vous
les choses que je ne sais pas, ça, c'est que je ne sais pas.
Ah oui.
Non.
C'est un vocabulaire particulier.
Je ne sais pas. Parce que je n'ai peut-être pas été élevée dans cette culture-là, c'est vrai.
Ah oui.
Nous, à la maison, c'était plutôt formica et tranches de jambon et purée chimique.
Voilà.
Je peux vous décrire très bien la purée chimique.
Et de la même façon, j'ai remarqué que quand vos héros écoutent de la musique ou une chanson, c'est toujours Billie Holiday, Frank Sinatra, les Beatles ou Céline Dion.
Ouais. Non, pas Céline Dion.
Céline
Dion. Ah non, ça c'était dans mon... Dans... Non, non, ça c'était
plusieurs
dans...
reprises, il dansait sur Céline Dion.
Oui, oui.
Non, 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 ça, Céline Dion.
Ça va avec le personnage.
Ouais. Bon, mais les autres, c'est un peu pour ratisser large, non? C'est pour éviter de se creuser la tête. Les Beatles, Billie Holiday.
Mais il n'y a pas que ça.
Hein. Frank Sinatra.
Oh, mais parce que Frank Sinatra, c'est évident. C'est tellement beau. Le beau existe.
Ah oui. Moi, je me suis dit, elle ne veut pas s'enquiquiner.
Pas du tout, j'aime ça.
Et qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, vous?
En ce moment,
qu'est-ce qu'on pourrait écouter là? Qu'est-ce que vous avez envie de faire écouter aux auditeurs d'Europe 1?
Là, on va écouter Leslie Gore, You Don't Own Me.
You Don't Own Me.
Qui était la première chanson féministe des années 60.
Ah, bon, on va l'écouter, vous me direz ce que ça veut dire après.
Oui.
Je ne suis pas aussi bilingue que vous.
Ça, c'est simple à comprendre.
Europe 1, 11h30, en balade avec Catherine Pancol, Frédéric Taddeï. You Don't Own Me. Just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay.
C'était You Don't Own Me, Leslie Gore. Moi, je sais que c'était produit par Quincy Jones.
Ouais.
Et c'est quoi, début des années 60. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit exactement?
Elle dit, je ne t'appartiens pas. Je
elle était toute jeune, hein, elle avait
17 ans. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. Tu n'as pas interféré dans ma vie. Ce qui était quand même assez culotté à l'époque. Les années 60, c'est Mad Men. Hein, c'est les femmes étaient des potiches.
Surtout à 17 ans.
Oui, mais il y avait Quincy Jones derrière.
Ouais. On se retrouve dans un instant avec Catherine Pancol, toujours à la Fondation Vuitton. Nous sommes avec Catherine Pancol en arrêt devant les bibliothèques modulables de Charlotte Perriand qu'elle avait réalisées pour les étudiants. C'était dans les années 50 avec leurs portes en couleur, multicolores, jaune, blanc, rouge. On a l'impression qu'on en voit partout maintenant, que ça a été copié à l'infini. Hein. Ces bibliothèques sur les murs, très jolies. Ça donne envie de retourner, de redevenir étudiant. Hein. Vous avez aimé être étudiante?
Oui, j'ai bien aimé être étudiante, oui, vraiment.
Et être écrivain, vous aimez ça?
Oui, beaucoup. J'ai mis du temps à me dire que j'allais être écrivain.
Ouais, combien? 3-4 romans?
Oui, 3-4 romans. C'est au quatrième, en fait, Les Hommes Cruels ne courent pas les rues. Ah. Que je me suis dit... je vais faire ça toute ma vie, quoi. C'est vraiment bien. Parce que c'est le contre-coup, quand le succès arrive trop vite, vous n'avez pas le temps de réaliser, de savourer, ça vous tombe dessus. Et après, on vous dit qu'il faut en écrire un deuxième, et vous le faites, et puis un troisième. Et puis, c'est comme si ça, il fallait un temps pour comprendre que c'était ça que, pour le, quoi vous étiez faite.
Mais j'ai l'impression que vous aimez beaucoup vos lecteurs. J'en ai vu plusieurs, d'ailleurs, qui vous reconnaissaient. J'ai l'impression que...
Mais j'aime beaucoup les gens, moi.
Ouais. Non, mais les, vos lecteurs, vous entretenez des rapports avec vos lecteurs.
Oui, c'est vrai.
Des vrais rapports. Mmh. Mais est-ce que vous le faites aussi à l'étranger? Vous me disiez tout à l'heure que vous parliez avec vos lecteurs russes. Donc, vous allez au salon, dans les salons, dans les rencontres.
Quand je vais à l'étranger, c'est parce que je suis invitée par mon éditeur. Donc, il y a toujours... des signatures, il y a des conférences, il y a...
C'est devenu important maintenant, j'ai l'impression. En tout cas, quand on est un... quand on fait des best-sellers, on se doit à son public.
Mais, non, moi, je ne fais pas des best-sellers, j'écris des livres.
D'accord. Ok. Oui, je comprends. C'est une nuance qui a son importance.
Public, on se doit rien du tout. Si, je veux dire, si je n'avais pas envie de parler aux gens, je ne parlerais pas aux gens. Pareil, j'ai toujours parlé aux gens. Depuis que je suis toute petite, j'ai passé mon temps à parler aux gens. Voilà, parce que les gens m'intéressent
c'est
vraiment.
C'est vrai, cette anecdote, j'ai entendu dire, j'ai vu ça, que vous aviez un petit fauteuil en rotin quand vous étiez enfant, et vous alliez chez les commerçants, vous installiez dans votre petit fauteuil, vous discutiez avec eux.
Je parlais à tout le monde, je suis née à Casablanca. Ben, surtout vendeuse de bonbons et de colis fichés. Mais je sais que ma mère, bien sûr, qu'elle me retrouvait aux Nouvelles Galeries à Casablanca. Et là, j'avais beaucoup d'amis. Et je parlais à tout le monde, mais je continue à parler à tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on fait des rencontres formidables.
Ouais. Sinon, et après, vous les utilisez dans vos livres?
Pas toujours, non. Non. Non, mais ça nourrit sûrement un terreau d'histoires, d'idées, d'impressions.
Rosalie, oui. L'héroïne de...
Rose,
l'héroïne de Bed Bug. Vous l'avez rencontrée où, elle?
J'ai rencontré en Espagne, dans un train.
C'est vrai? Mais vraiment?
Vraiment, non, c'est vrai. On a commencé à parler et c'était incroyable ce qu'elle me disait. Je me disais, waouh, là, ça crépite. Vous sentez quand il y a un sujet qui... Ça se met à crépiter dans votre tête.
Et Léo?
Et Léo, c'est... parce que j'avais rencontré un chercheur du CNRS en biologie qui faisait des études sur une petite crevette rose de 3 mm dans une grotte à Cuba. Et le type en parlait avec une passion dévorante. Et il est fondé de grands espoirs sur cette petite crevette. Et donc, il me faisait rire. On avait échangé nos mails et il me racontait les progrès de sa crevette. Et puis un jour, il m'a envoyé un mail en me disant que sa crevette ne donnait rien du tout. Il s'était complètement trompé. Il avait passé 5 ans à étudier sa crevette. Et du coup, j'ai fait un étudiant cubain qui était un peu comme lui. Quoi.
Émigré aux États-Unis.
Émigré aux États-Unis. Alors lui, il n'était pas émigré aux États-Unis, mais il fallait qu'il ait une double culture, ça m'intéressait.
Les États-Unis, vous y revenez tout le temps quand même. Hein.
Mais j'ai passé beaucoup de temps.
Pourquoi vous êtes revenu?
Je suis revenue parce que j'ai eu des enfants et je trouve ça difficile d'élever des enfants à New York.
Ah oui?
Ouais, c'est très compliqué.
Après, ils deviennent américains, quoi.
Et voilà. Et vous savez quoi? Non, je voulais pas qu'ils me parlent américain. C'était une terreur. Je supporte pas l'accent américain. Hi, mommy. How do you do? Je peux pas. Je suis sûre. Et quand j'arrive à New York, je mets 2-3 jours à attraper le diapason, voyez, à monter dans les aigus et les nasales. Et l'idée d'avoir des enfants, parce que j'avais des copines françaises qui avaient posé des Américains et qui avaient des enfants. Et quand ils rentraient de l'école, je disais, mais moi, je ne pourrais jamais, quoi. Jamais avec les... Et puis tout ce qui va avec, la nourriture, le... Alors que j'aimais bien les Américains, je les aime un peu moins maintenant, mais j'aimais bien. Et c'est pour ça que je suis rentrée en France. Je pense que si je n'avais pas eu d'enfants, je serais restée là-bas. Parce que j'aime bien la manière de vivre. Il y a un truc que j'aimais bien aussi aux États-Unis, c'est que... Là, pour le coup, tout le monde se parle. Vous avez des préjugés par où vous parlez. Vous avez énormément de préjugés. C'est drôle de vous écouter.
C'est une manière de faire parler les autres aussi. D'étaler des préjugés.
Oui, de les faire réagir.
Oui.
C'est ça, oui. Non, ça, c'est vrai.
Mais... Par exemple, j'en ai un, les Américains, tout le monde se parle, mais les Français, tout le monde se regarde.
Oui, et ça, c'est pas faux.
Ça, c'est pas gentil, faux. Enfin, j'en ai un.
Non, mais ça, c'est pas faux. Mais c'est vrai que je trouve qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup de préjugés. Les gens vous mettent dans des boîtes, sont dans des boîtes eux-mêmes, d'ailleurs, où ils ne sont pas forcément heureux. Et là-bas, il y a un truc... Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il ne reste pas grand-chose après. C'est qu'ils ouvrent grand les bras, mais ils ne les referment pas, ça, c'est vrai.
Mais... Nous, on passe notre temps à se regarder les uns les autres. Quand vous entrez dans un restaurant, tout le monde vous regarde. Vous regardez tout le monde.
Alors que...
Ça n'existe pas ailleurs.
Non.
Pas autant.
Et si vous avez juste un truc qui cloche, on vous regarde, et, oh putain, elle est mal habillée, ou t'as vu comment elle marche, oh t'as vu avec qui elle est, oh là là, quelle horreur. Oh, il n'y a pas ça là-bas, ça fait une grande liberté quand même.
Ben merci Catherine Pocol de nous avoir emmenés en balade avec vous. Je rappelle que votre 19e roman, Bedbug, vient de paraître chez Albin Michel. J'en profite pour remercier la fondation Louis Vuitton, dans laquelle nous nous trouvons au milieu de l'exposition consacrée à Charlotte Perriand. Je remercie aussi la librairie du Roule et Martine, sa charmante libraire. Et puis la ville de Neuilly, parce qu'on l'a traversé.
Et le bois de Boulogne. Et les cygnes. Et les canards.
Voilà. Et les renards.
Et les feux rouges et les feux verts.
Il y a plus de renards que d'écureuils.
C'est vrai?
Ouais.
Mais en France, il n'y a pas d'écureuils.
Si, il y en a. Très bien peu. Sûr. Il y a des écureuils roux.
Roux.
Dans le bois de Boulogne.
Oui, mais j'en ai pas vu beaucoup.
Hein. C'est notre Central Park à nous, mais c'est beaucoup plus grand que Central Park.
Central Park, on marche sur les écureuils. Gris.
Je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Au revoir.